la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu.
Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi. Cette fois, on s'entend. Bonsoir. Vous êtes toujours sur Radio Canu. Il est 19h03 et c'est l'heure des infos.
Et c'est l'heure des infos avec... Alors, bien sûr, on va commencer par une petite brève qui est... Si vous ne vous informez que sur Radio Canu et si vous n'avez parlé à personne depuis la fin de la matinée, peut-être que vous n'êtes pas encore au courant. On vous laisse découvrir après les titres, malgré tout. Et puis après, quoi, on va parler nucléaire. Le seul des EPR en service dans le monde vient de nous faire un petit coup de calgon.
Voilà, en plus, après on parlera, ces thèmes de la soirée, on parlera du nucléaire militaire cette fois, en se questionnant sur les dépenses nucléaires militaires mondiales et françaises particulièrement.
Et puis, il y a des gens qui collent beaucoup d'autocollants et d'affiches, en tout cas dans le 7e arrondissement à Lyon, et voilà, on verra, on en parle un petit peu, que alternative rouge et tricolore, c'est à peu près comme tarte aux fraises et aux brocolis, c'est vraiment indigeste.
Et puis, on passera au campement de mineurs isolés qui s'est installé à la Croix-Rousse. Voilà, ce sera un petit reportage. Avant de finir sur une annonce express à l'école Gilbert Dru, puisque une mère et ses enfants risquent de se retrouver à la rue.
Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios.
Info.
Et voilà donc l'info du jour, l'info principale, l'info la plus grande, l'info la plus importante en termes de d'enjeux mondiaux, c'est bien celle-là. La levée du port du masque en extérieur, c'est demain. Et le couvre-feu à 23h, ça n'existe plus à partir de dimanche. C'est ce que le Premier ministre nous a annoncé aujourd'hui, tout à l'heure, à la sortie du Conseil des ministres. Donc
mais,
demain.
Ouais. On a dit qu'à 19h, c'était plus un scoop et ça fait déjà longtemps que tout le monde le sait.
Je sais, d'accord. Mais en fait, moi, pourquoi j'en parlais? Pour me demander si c'était à cause de cette petite histoire de la fin de la semaine dernière dont vous avez peut-être entendu parler ou peut-être pas. Mais ce fameux soir où, en même temps, du côté de Roland-Garros, un petit peu avant 23h, le speaker annonce qu'une dérogation spéciale est autorisée par l'Elysée pour que le public puisse assister à la fin du match qui opposait à ce moment-là Nadal à Djokovic. La foule en délire scande « Merci Macron », un privilège, nous dit Nantes révolté, accordé par le président en personne pour la bourgeoisie parisienne venue s'esclaffer devant deux multimillionnaires s'échangeant des frappes dans la petite balle jaune. Mais au même moment, aux Invalides, c'est-à-dire pas très loin de Roland-Garros finalement, des jeunes s'étaient rassemblés pour un moment festif dans le cadre d'un appel lancé sur les réseaux sociaux. Dès le début du couvre-feu, les forces de l'ordre ont noyé complètement la place des Invalides sous les gaz lacrymogènes avant de charger les participants. Privilège de caste d'un côté, répression de la jeunesse de l'autre, illustration d'une soirée digne de l'ancien régime, nous dit Nantes révolté, mais en réalité, il semble que ça ait fait un sacré buzz sur les réseaux sociaux, un peu toujours dans cette thématique. Voilà, bah, quelques jours après, Castex nous annonce que non mais allez, c'est bon, on arrête maintenant ces histoires de couvre-feu et de port du masque, c'est cool.
Canu Info. Du mercredi.
Et autrement, voilà un titre qui m'a fait penser à toutes ces listes électorales, municipales, départementales, qui plutôt que d'avoir, de risquer d'avoir une étiquette en termes de gauche ou de droite, se présente comme participative. Généralement, la réalité, c'est que c'est des listes de gauche, hein, d'extrême gauche sans parti. Moi, personnellement, j'ai quelques amis qui sont élus sur des listes participatives dans des petites municipalités. Mais participatif, est-ce que c'est un synonyme de gauche ou de autogestionnaire, par exemple ? Eh bien, je me suis reposé la question en trouvant tout à l'heure le titre que je vous lis donc. Maintenant, présidentielle 2022, le maire de Nice, Christian Estrosi, va lancer une plateforme participative.
Waouh !
Canu Info.
Alors, avant-hier, CNN a rapporté une fuite dans la centrale nucléaire de Taishan, c'est dans le sud de la Chine. Cette centrale nucléaire, c'est un EPR, donc c'est cette dernière génération de centrales nucléaires, un truc hyper bien, hyper moderne, construit par EDF. C'est un fleuron du savoir-faire nucléaire français, et c'est même en réalité le seul EPR qui est actuellement en fonctionnement dans le monde, puisque EDF essaye de construire des EPR, mais ça marche pas complètement. Et donc c'est assez embêtant pour EDF cette histoire d'incident. EDF est en réalité le gouvernement français qui tienne à exporter cette technologie le plus possible. Et EDF qui est en train de construire un autre EPR en France en ce moment même. Quand je dis en ce moment, c'est que ça remonte à il y a carrément longtemps. Puisque, on a déjà dit mille fois, on connaît cette histoire. Cet EPR devait être construit vite fait, bien fait et pour pas très cher. Là, j'ai même pas recherché les chiffres, hein, mais il est toujours pas fini. Alors que ça fait quelque chose comme 4 ou 5 fois le nombre d'années, enfin le temps que dure le chantier a duré 4 ou 5 fois ce qui était prévu, et le pognon dépensé, c'est pareil, ça se compte en milliards d'euros, et le budget a lui aussi été multiplié par au moins 4 depuis le début du chantier. Alors, depuis deux jours, EDF nous explique que cette histoire à Taishan en Chine, cette histoire de fuite, c'est rien du tout, il s'est à peu près rien passé. Et le gouvernement chinois confirme, ma foi, non, mais c'est bon, c'est pas grave, les taux de machin et de trucs restent dans des limites très raisonnables. On va pas en faire, voilà, c'est rien. Nous voilà donc rassurés, puisque ces deux interlocuteurs, EDF et le gouvernement chinois, sont des interlocuteurs dignes de confiance. Leurs déclarations sont forcément la pure vérité. Et alors, plus précisément, c'est quoi les explications ? Eh bien, on nous explique que le problème vient d'une espèce de grosse barre d'uranium qui sont plongées dans une cuve, et cette cuve est pleine d'eau, et normalement ces barres sont isolées, mais là on a trouvé que l'eau est radioactive et qu'elle chauffe un peu plus qu'il faudrait, mais c'est pas grave, nous disent les spécialistes, puisque la cuve suffit comme protection. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est qu'il y a deux protections. La protection qui est directement autour des barres, elle a cédé, mais c'est rien, puisqu'on a cette cuve qui protège. Cette histoire de cuve, ça me rappelle quelque chose. C'est que dans l'EPR, alors celui qui est en construction à Flamanville en France, il y a aussi une cuve. Bien sûr qu'il y a aussi une cuve, puisque c'est donc l'idée que ce soit la même centrale que celle de Taishan. Mais il y a quelques années, quand cette cuve a été installée, il y a eu, ma foi, une sorte de petit scandale, puisque l'entreprise qui avait construit la cuve, avait fait un alliage qui n'était pas exactement celui qu'il fallait pour fabriquer l'acier dont la cuve est constituée. Alors l'acier, on se rappelle pour les gens qui n'ont pas suivi en cours de physique chimie, c'est un mélange de fer et de carbone qui sont fondus ensemble dans une certaine proportion, une certaine température, tout ça. Si on varie la proportion, alors si on la varie beaucoup, ça ne marche plus du tout, mais si on la varie dans une certaine limite, ça donne quand même de l'acier, juste il est moins solide. L'entreprise qui avait fabriqué cette cuve a falsifié des documents pour masquer le fait que dans cet alliage-là, il y a bien trop de carbone. Et du coup, la cuve est moins solide qu'elle devrait. Comme EDF était déjà, au moment où on a su cette affaire de falsification de documents, était déjà bien dans la merde avec ce chantier qui, déjà à l'époque, durait bien trop et coûtait bien trop, ma foi, l'autorité de sûreté nucléaire française, c'est vrai que des fois elle fait un peu gendarme, mais là, elle voyait bien que EDF était au bout du rouleau, et donc ils se sont montrés compréhensifs au moment où le scandale a été découvert. En gros, l'autorité de sûreté nucléaire a dit « Bon, ok, allez, maintenant c'est fait, on n'a qu'à garder la cuve telle qu'elle est. » Juste, il faudra penser à changer le couvercle après quelques années de fonctionnement. C'était réellement le contenu de la décision de l'ASN. Alors, ma foi, qu'est-ce qui se serait passé à Taïsan si la cuve avait été en carton comme celle de Flamanville, au moment où les bars ont cédé? Qu'est-ce qui se passera avec la cuve de Flamanville si on a la même fuite que celle qui a lieu à Taïsan? Eh bien, pour ma part, je ne suis pas pressé de le savoir.
Canu Info. Du mercredi.
Alors, on sait déjà que le budget de l'armée, c'est le plus important de tous les budgets votés en France. Mais avec cet ordre de grandeur, ça donne vraiment des frissons, puisque chaque minute, la France dépense 8 969 euros d'argent public, donc pour son arsenal militaire uniquement nucléaire. Voilà. La campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, qu'on appelle ICAN, pose dans un nouveau rapport la question des coûts des armes nucléaires, alors qu'un traité international pour leur interdiction est entré en vigueur cette année, ça tombe mal. Alors, selon le recoupage de données qu'a fait l'ICAM, pour l'ensemble des 9 États possédant les armes nucléaires, donc il y a les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, la France, l'Inde, Israël, le Pakistan, la Corée du Nord, les dépenses effectuées en 2020 pour les entretenir se chiffrent à plus de 60 milliards d'euros. C'est-à-dire 72 milliards de dollars, et soit 1,4 milliard de dollars de plus que l'année dernière, donc c'est en augmentation. Pour la France, c'est 4,7 milliards d'euros dépensés pour l'armement nucléaire sur cette même année 2020. Alors, la somme de 4,7 milliards d'euros alloués à la dissuasion nucléaire française l'année dernière, donc comprend les coûts annuels des têtes nucléaires, la modernisation, le renouvellement des missiles de croisière, avec notamment des nouveaux missiles Airbus Safran, voilà, je vous passe les détails, la flotte de sous-marins nucléaires d'attaque, 5 navires et bientôt 6 en service, donc on insiste sur le fait que c'est pas seulement maintenir quelque chose qui existerait déjà, mais bel et bien le développer. Ensuite, quoi encore en 2020, donc c'était à peu près 11% du budget militaire total qui a été consacré aux armes nucléaires. Et puis, selon la dernière loi de programmation militaire qui a été votée en 2018, la France se fendra d'une somme supplémentaire de 27,85 milliards d'euros pour la dissuasion nucléaire entre 2021 et 2025. Donc ça, c'est un projet d'augmentation encore. Alors, il y avait bien eu un débat parlementaire qui était prévu pour la révision de cette loi de programmation militaire, mais finalement, il ne s'est pas tenu. Alors, le ministère de la Défense, s'il fait fi des débats, il semble aussi royalement ignorer le traité international sur l'interdiction des armes nucléaires, qui a été adopté le 22 janvier 2021, donc par les Nations Unies. Alors, ce traité qui a été adopté du coup aux Nations Unies par 122 États en 2017, a atteint en fin 2020 un quota de ratification de 50 États, c'est-à-dire que c'est le seuil nécessaire à son entrée en vigueur. Donc il est officiellement entré en vigueur. En Europe, le Liechtenstein a signé le traité, par exemple. L'Autriche, l'Irlande, Malte, le Saint-Siège et Saint-Martin sont allés plus loin et l'ont ratifié. Alors sans rentrer dans les détails, la signature d'un traité, ça signifie que le pays en question souhaite que le traité existe et souhaite poursuivre vers la conclusion du traité. Et puis la ratification, c'est l'étape suivante qui est une étape d'accord et d'engagement. Voilà. Alors la France, surprise, ne l'a ni signé et encore moins ratifié. Les justifications sont assez savoureuses et puis se passent de commentaires, puisque si on vous lit simplement ce qu'on trouve sur le site France Diplomatie, alors dans un petit question-réponse sur le traité de non-prolifération des armes nucléaires, il y a une question qui s'intitule « Pourquoi la France n'est-elle pas en faveur d'une interdiction complète des armes nucléaires ?» Je vous lis la réponse. La France est déterminée à poursuivre ses engagements en faveur du désarmement nucléaire. La France ainsi que de nombreux autres États engagés en faveur du désarmement nucléaire ont pris la décision de ne pas signer le traité d'interdiction des armes nucléaires. Le TIAN, donc traité d'interdiction des armes nucléaires, le TIAN est un texte inadapté au contexte sécuritaire international, marqué par la résurgence des menaces d'emploi de la force, le réarmement nucléaire russe, les tensions régionales et les crises de prolifération. Le TIAN s'adresse exclusivement aux démocraties occidentales, ce qui signifie qu'il ne fait peser aucune pression sur d'autres États que les Européens. Ouin ouin, hein. Il ne servira donc pas la cause du désarmement, puisqu'aucun État disposant de l'arme nucléaire ne le signera. Donc, sous-entendu, on ne va pas le signer non plus, puisque aucun ne va le signer. Il fragilise une approche réaliste d'un désarmement s'effectuant étape par étape. Voilà. Alors, en revanche, à la question « Quelles actions concrètes la France met-elle en place en matière de désarmement nucléaire ?», on sera heureux d'apprendre dans la réponse, parmi d'autres bêtises, que, je cite, « La France poursuit son action en faveur du désarmement nucléaire. Ses priorités sont, entre autres points, la poursuite de la réduction des arsenaux nucléaires russes et américains. »
Canu Info.
Dites donc, aujourd'hui, j'étais. Je me suis en baladant à la guillotière, je suis tombé sur un autocollant. Alors, un autocollant militant d'un groupe qui colle beaucoup aux alentours de la guillotière. Un groupe qui s'appelle le PRCF, pour Pôle de Renaissance Communiste en France. C'est des gens qui collent beaucoup, des affiches, des autocollants. Pour autant qu'on sache, ils font pas grand chose d'autre. Hein, on les voit pas trop traîner dans des manifs ou faire quoi que ce soit d'intéressant. Juste envahir les espaces de collage militants, recouvrir les affiches féministes, par exemple, avec leur merde. Et c'est quoi le cœur de leur discours ? Eh ben, c'est ils font partie de ces gens qui trouvent que la sortie de l'Europe, c'est la solution à tous les problèmes du monde. L'autocollant que j'ai vu ce matin parlait de Frexit progressiste et se présentait comme une sorte de plus ou moins signature pour une alternative, écoutez bien, rouge tricolore. Alors bien sûr, c'est des contradictions dans les termes, visiblement un petit peu volontaires, ça pourrait paraître un paradoxe un peu profond à première vue, et quand on se penche un peu plus, eh ben, ça ressemble plutôt à un paradoxe de merde, et si confusionniste veut dire quelque chose, c'est quand même très exactement ça. Mettre dans un même sac idéologique tout et n'importe quoi, surtout des trucs qui, a priori, sont censés pas aller ensemble. Et pour des bonnes raisons, plutôt. C'est-à-dire, sont censés, pour des bonnes raisons, ne pas aller ensemble. Alors, comme ça fait longtemps que leurs affiches m'énervent, l'autocollant d'aujourd'hui, ça a été la petite goutte d'eau qui m'a fait décider de leur faire un sort, ici même, ce soir, et une fois qu'ils se seront fait bien remonter les bretelles par le Canu Info, ils vont moins faire les malins.
Ou ils vont nous appeler pour râler.
Où ils vont nous appeler pour râler, ou mais bon, ceci dit, ils sont quand même peut-être encore moins nombreux que les auditeurs de Radio-Canada. Le Frexit progressiste, attention, il y a bien frire dans le mot. Il s'agit donc pas du tout de faire péter l'Union Européenne pour, par exemple, instaurer un grand internationalisme prolétarien. C'est pas. Voilà. Il s'agit pas du tout de ça. Il s'agit bien de reconstruire des frontières nationales françaises. Française en roulant le R, la française, c'est un truc quand même, un classicisme dont on voit difficilement le progressisme, et de s'enfermer entre françaises et français, d'avoir une patrie, une nation, une identité nationale, on imagine toutes ces choses-là, toutes les obsessions de la droite extrême et de l'extrême droite, on comprend vraiment, vraiment pas ce qu'il pourrait y avoir de progressiste, pour employer leur vocabulaire, hein, dans le fait de reconstruire des frontières. Visiblement, leur monde idéal, c'est un peu l'Europe de 1913-1914. Comment dire, ça fait peut-être rêver certains, mais moi, pas tant que ça. Alors, pour aller un petit peu plus loin, disons que pour nous, les simples couillons-couillonnes, que les décisions qui vont par ailleurs pourrir nos vies soient prises à Bruxelles ou à Paris, eh ben, il faut quand même être bien naïf ou bien faf pour croire que ça changera réellement quelque chose à nos vies. Qu'un gouvernement français, qui serait entièrement libre de ses mouvements, ferait bien mieux qu'une commission européenne. Le problème, c'est quand même plutôt que les décisions, elles sont prises loin, elles sont prises par des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Le problème, c'est que les puissants, qui donc sont à peu près toujours les mêmes que les riches, que ces gens-là se retrouvent en position d'imposer 1000 contraintes à la grande partie de la population, c'est-à-dire plutôt les pauvres, ou juste même les moins riches, et de nous envoyer les flics pour nous calmer si on n'est pas contente. J'ai pas l'impression d'inventer l'eau chaude en disant ça, mais le problème, c'est pas vraiment le problème national, c'est quand même plutôt un problème de classe sociale, c'est ça notre problème à nous, en tout cas, avec le pouvoir, et disons que c'est dans une perspective progressiste, comme ils disent ces gens, ça semblerait un peu évident que le coût de la classe sociale est un peu plus intéressant que de savoir quelle langue va parler la personne qui va prendre la décision de merde. Donc ça semble un peu évident comme ça, mais les crétins du PRCF n'ont visiblement pas capté cet aspect. Alors, évidemment, le fait que des Mélenchon, des Le Pen, tout ça, soit alors, plus ou moins, selon les cas et selon leur intérêt, mais plus ou moins anti-européens, anti-européennes, c'est assez logique, puisque ces gens s'imaginent à la tête de la France, s'imaginent président de la France, et comme leur but, c'est d'être chef le plus chef possible, d'avoir le plus de pouvoir possible, le fait de savoir que si à ce moment-là, à la tête de la France, leur décision pourrait être contrecarré par une autre autorité, c'est sûr que ça assombrit un peu leur joie. Alors, le PRCF, je vais mieux vous dire, ils vont pas arriver à l'Élysée. Hein. Donc, eux, c'est vraiment par bêtise pure et simple. En tout cas, pour nous, à la fin, en attendant la Révolution, on peut quand même adéquatement trouver quelques petits avantages, il me semble, à ce que le pouvoir soit, malgré tout, un peu divisé. Et alors, je veux pas du tout dire que l'Europe nous sauve ou qu'elle est la solution à tout. Mais malgré tout, c'est arrivé quelques fois, une fois de temps en temps, dans les années passées, que l'Europe mette un petit frein. Bon, rien de magique, vraiment rien de magique. Mais enfin, c'est toujours ça, aux velléités ultra-racistes d'un Orban ou d'un Sarkozy, par exemple, recadre tel ou tel président sur la manière de traiter les Roms, les journalistes, les musulmans, les minorités, les opposants, les manifestants. La Commission européenne, une fois de temps en temps, elle s'émeut un petit peu ici ou là, des violences policières en France, par exemple. Ça sert à rien ? Eh ben, on n'est pas entièrement sûr. Enfin, peut-être oui, peut-être non. En tout cas, allez savoir si l'avis du Conseil d'État la semaine dernière, celui qui, alors qui accepte certaines choses, certaines pratiques dégueulasses de la police française, mais quand même, qui a un peu fait parler de lui, puisqu'il interdit, dans le cadre du maintien de l'ordre, à la police française de nasser les manifestants. Alors, pareil, ça interdit pas dans tous les cas. Mais quand même, on a vu directement la différence à la manif contre l'extrême droite de dimanche dernier, pour les gens qui y étaient. C'était incroyable comme la police était loin et comme elle faisait pas chier. Juste quelques jours après cette histoire d'avis du Conseil d'État. Hasard ou pas, bon. En tout cas, est-ce que cet avis du Conseil d'État a pu être à un moment influencé par le fait que l'Europe se soit émue des violences policières en France ? Ben oui, on est sûr de rien. Si ça se trouve, c'est même pas le cas. Mais même si c'est pas le cas, est-ce qu'on a que ça à foutre de décider de quelles frontières précisément vont nous étouffer, de la taille du cadre où on va bousiller le droit du travail, ou du nom de l'instance qui va mal gérer la crise écologique ? Ou alors, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire ce qu'on peut pour bousiller les frontières, imposer un droit du travail solide, des mesures réellement écologiques, et là, j'ai fait que trois thèmes, mais on pourrait en chercher des tonnes d'autres. J'imagine que les Hongrois, alors ceux des Hongrois et Hongroises qui pourraient être nos amis, ne sont sans doute pas fâchés que Orban se fasse régulièrement un peu mettre des bâtons dans les roues par l'Europe. Et réellement, ça fait des sortes de prises de tête, de confrontations de pouvoir, qui font que Orban est moins libre de ses saloperies, du fait de l'Europe et du pognon qui tire de l'Union européenne. Hein, mais voilà, si on est en tête à tête avec nos dirigeants nationaux, je ne vois pas ce qui pourrait nous faire. Ma phrase est bizarre, celle que j'ai écrite. Bon, tant pis, on l'oublie. En tout cas, l'alternative rouge tricolore, ça a à peu près autant de sens que l'athéisme catholique fondamentaliste, le communisme royaliste ou la tarte aux fraises et aux brocolis. Dans tous les cas, c'est le truc dégueulasse qui l'emporte.
Et vous venez d'entendre le groupe Litige qui chantait Bord de route. On trouve ça sur leur album Fuite en avant.
Et tout de suite, on va s'écouter du coup l'interview de Benjamin à la Croix-Rousse. C'est pas ça.
Tout de suite. Donc, je m'appelle Benjamin, je fais partie de l'association AMI, d'accueil mineurs isolés étrangers. Et donc on accompagne les mineurs qui arrivent ici à Lyon et sur la métropole dans leurs différentes procédures juridiques pour réintégrer le parcours scolaire au niveau de la santé également.
Et donc là, on est au square de, enfin, au métro Hénon. Il y a une trentaine de tentes à peu près. Et de mineurs qui dorment dedans en ce moment. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la situation ?
Oui, donc là, ça fait maintenant donc bientôt 3 semaines qu'on a installé les tentes dans ce square. Donc ici, en effet, là, on arrive plutôt à une quarantaine maintenant de mineurs qui dorment ici. Donc ce sont des mineurs, ce qu'on dit mineurs isolés étrangers, qui viennent principalement d'Afrique de l'Ouest. La plupart sont francophones. Et donc ce sont des jeunes qui n'ont pas été reconnus mineurs à leur première évaluation à l'arrivée ici dans la métropole de Lyon et qui font donc appel de cette décision. Donc en fait, ils attendent de voir le juge des enfants. Et donc dans l'attente de voir le juge des enfants. Pour l'instant, il n'y a aucune prise en charge proposée par la métropole.
D'accord. Et donc, en fait, ça fait, tu dis, à peu près 3 semaines. Ça fait aussi suite au fait que vous aviez un lieu en dur où accueillir plus ou moins des mineurs dans cette situation, et c'était le collège Morissel.
Oui, alors un petit peu en fait dans la suite de la politique sur Lyon, grâce à la mobilisation qu'il y a eu autour du collège Maurice Sève, donc sur la Croix-Rousse, la métropole fin octobre 2020 s'était engagée dans une nouvelle politique de prise en charge en fait de tous les jeunes en recours, c'est-à-dire en attente de voir le juge des enfants. Donc il y a eu une mise à l'abri systématique dans des hôtels, il y a eu la création d'un centre d'hébergement d'urgence pour les mineurs, mais en fait début du mois de mai là 2021, la métropole a annoncé qu'elle arrêtait cette politique de mise à l'abri systématique, et donc elle recommençait à mettre à la rue les jeunes à la sortie du centre d'évaluation. Donc c'est pour ça que début mai, donc les jeunes ont commencé à se retrouver de nouveau à la rue. On a relancé beaucoup l'hébergement citoyen, mais forcément voilà, ça a atteint aussi ses limites. Donc on n'a pas eu le choix le 28 mai de réinstaller les tentes dans un square, histoire que les jeunes se retrouvent quand même ensemble avec le soutien des associations, le soutien du voisinage, plutôt que de dormir chacun dans la rue.
Pourquoi vous avez décidé de faire ça ici particulièrement ? C'est parce que vous avez déjà des attaches à la Croix-Rousse ?
Oui, alors le choix du square, ça n'a pas forcément été vraiment calculé à l'avance non plus, mais c'est l'idée qu'en effet, la Croix-Rousse est un quartier du coup assez sensible à cette question de la migration, cette question des mineurs isolés étrangers aussi. C'est un square qui avait déjà accueilli des jeunes en 2017, au moment où le centre d'évaluation était juste à côté. Donc voilà, c'est un endroit qui est un petit peu symbolique aussi, et qui permet de remobiliser un petit peu sur cette question-là des mineurs étrangers dans la métropole.
Et alors du coup, tu disais, là, c'est des mineurs qui sont arrivés en France très très récemment, à peu près au mois de mai, quoi, et qui ont d'ores et déjà été déclarés, rejetés de leur minorité. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce processus, ce qui a fait qu'ils se sont retrouvés à la rue aussitôt après être arrivés ?
En fait, quand un mineur arrive en France, il doit se présenter dans une ville et il est pris en charge par un département, ou ici à Lyon par la métropole. Et donc, il doit faire ce qu'on appelle une évaluation, où il va devoir répondre à tout un entretien sur sa vie au pays, sur son parcours. On va lui demander de présenter des papiers, un extrait de naissance notamment. Et c'est au terme de cette évaluation que la métropole va juger si elle considère que le jeune est mineur ou majeur. Donc les associations, nous, on considère vraiment que cette évaluation, elle est très inadaptée, puisque voilà, c'est pas un entretien d'une heure et demie qui permet de dire si le jeune a 16, 17 ou 19 ans. Donc en fait, ces jeunes-là, quand ils se retrouvent non reconnus mineurs par la métropole, ensuite ils engagent une procédure de recours, donc ils prennent une avocate et ils attendent de voir le juge des enfants. Et au juge des enfants, ils vont présenter un état civil complet avec extrait de naissance pour prouver leur minorité en fait devant la justice en France.
Et alors à ce stade-là, au stade quand c'est un juge des enfants qui vraiment les voit, là du coup ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on reconnaisse leur minorité.
Oui, alors on a les chiffres qui sont donnés par la métropole. En fait, là, au premier trimestre 2021, c'est seulement 18% des jeunes qui sont reconnus mineurs à la sortie du centre d'évaluation. donc ça veut dire voilà près de 80% et qui sont non reconnus mineurs. Et en fait, les chiffres s'inversent diamétralement au moment du passage devant le juge des enfants, puisque par exemple, pour prendre précisément hein, le cas de La Station, qui est ce nouveau centre d'hébergement pour les mineurs, on a 80% d'entre eux qui vont finalement être reconnus mineurs par le juge des enfants. Donc ces chiffres-là, ça montre vraiment en fait qu'il y a un problème dans le point de départ, au départ de cette évaluation, qui va remettre énormément de jeunes à la rue, qui sont mineurs et qui vont être reconnus mineurs par le juge des enfants 2, 3 mois, 4 mois après.
Et est-ce que vous savez un petit peu si le nombre de recours il est élevé ou pas ? Enfin, si les jeunes pensent à faire un recours et se disent que c'est bien, ou s'ils abandonnent et du coup ils se retrouvent à la rue et là pour le coup vraiment isolés ?
La plupart des jeunes qui sortent du centre d'évaluation, ils se retrouvent un peu voilà, à rencontrer les associations ici à Lyon. Les associations les aident à s'engager dans cette procédure de recours parce qu'il y a besoin d'accompagnement autour. Tous les jeunes qui dorment ici dans le square ont tous engagé un recours devant le juge des enfants et attendent tous en fait une date d'audience.
Et du coup, alors ce square là, enfin c'est pas hyper satisfaisant pour eux ou pour vous. Je dis pour eux parce qu'il y a d'ailleurs surtout des garçons.
Oui, la plupart des mineurs étrangers qui arrivent en France, c'est vraiment majoritairement des garçons. Ça arrive quelquefois qu'il y ait aussi quelques filles et qui arrivent à faire tout ce parcours migratoire depuis l'Afrique jusqu'en Europe, en passant par les différents pays et la Méditerranée. Pour prendre l'exemple du square, en effet, ce sont que des garçons qui dorment ici, mais on a aussi 4 filles qui ont été remises à la rue récemment par la métropole et qui, elles, sont en hébergement citoyen dans des familles.
D'accord. Et oui, donc c'est pas très satisfaisant de faire dormir autant de personnes dans un square, dans des tentes. Est-ce qu'il y a d'autres plans qui se profilent ?
Oui, alors je pense que c'est vrai que autant les jeunes, les associations, le voisinage que les différents élus, on est tous d'accord pour dire que ce campement-là n'est pas une solution, il est vraiment pas destiné à être pérennisé. Donc on a sollicité dès le départ à l'installation des tentes à la fois la mairie, la métropole et la préfecture pour essayer de trouver une solution commune en fait de relogement et une prise en charge de ces jeunes tout au long de leur recours et jusqu'à la fin de leur procédure. Donc les discussions côté métropole et préfecture sont loin d'être satisfaisantes. En revanche, en effet, on peut noter que la mairie centrale ces derniers jours s'est manifestée pour essayer vraiment de trouver une solution de relogement pour certains jeunes qui sont ici.
Donc la mairie du 4e.
Pas la mairie du 4e, la mairie centrale.
D'accord.
Vraiment la mairie centrale propose là actuellement une possibilité de relogement pour une trentaine de jeunes. Ce qui est vraiment très bien de la part de la mairie. La seule problématique, c'est que les jeunes dans le square sont plus nombreux. Entre ceux qui sont dans le square ici et ceux qui sont en hébergement citoyen, on est plus autour de 55-60 mineurs. Donc même si la mairie propose une trentaine de places, c'est pas encore vraiment suffisant en fait pour régler la situation des mineurs à la rue.
Et puis tu disais tout à l'heure, il y en a qui arrivent encore chaque jour. Est-ce que l'un dans l'autre, avec ceux dont le recours est passé et dont la minorité est reconnue par le juge des enfants, est-ce que ça se compense ou est-ce qu'il y a vraiment une augmentation?
Oui, donc c'est vrai que sur le square, on accueille des nouveaux qui sont mis à la rue par la métropole du centre d'évaluation un peu tous les jours. Après, l'idée, c'est vraiment pas de voir ça comme voilà, une masse qui va arriver. Il n'y a pas d'histoire d'appel d'air dans le cadre des mineurs étrangers, puisque justement, il y a une sorte voilà un flux continu qui fait que les jeunes, une fois passés devant le juge des enfants, vont laisser leur place aux nouveaux qui arrivent. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui tourne. La seule problématique qu'on a à cette période de l'année, c'est que l'été arrive. Et donc, pendant l'été, on a ces vacances judiciaires qui font qu'au niveau du passage devant le juge des enfants, les audiences vont se ralentir, vont diminuer. Donc, il va forcément y avoir un blocage pendant l'été, ce qui va entraîner voilà, une demande de logement supérieure.
Et alors, du coup, on a parlé des propositions de la mairie qui sont de toute façon insuffisantes. Et quelles autres propositions sur quoi vous pouvez vous appuyer aussi? Par exemple, il y a cette ouverture de squat à Villeurbanne. Enfin, est-ce que vous pouvez compter là-dessus? Est-ce que c'est trop précaire?
Donc déjà, ce qu'on demande avec les associations ici, c'est à la métropole et à la préfecture de s'entendre pour un relogement et une prise en charge de ces mineurs le temps de leur recours et jusqu'à la fin de leur procédure. Pour l'instant, la mairie a proposé une trentaine de places de relogement, ce qui n'est pas suffisant. Donc on demande vraiment d'aller plus loin dans les propositions de relogement. Mais en attendant, comme les tentes sont une solution pour personne, avec les associations, on est en effet à l'initiative d'une ouverture d'un squat, d'un bâtiment qui est sur la Croix-Rousse, qui est un bâtiment qui appartient à la SNCF. La problématique en fait de ce lieu, c'est qu'il y a un projet de construction de logements sociaux, avec un projet de démolition de ce bâtiment à la fin de l'été. Donc il est bien sûr hors de question pour les associations de remettre en cause ce projet de construction de logements sociaux sur la métropole et sur le quartier de la Croix-Rousse. Donc on cherche vraiment voilà, à essayer de trouver une sorte d'occupation temporaire pendant l'été en attente de la démolition de ce bâtiment, en espérant que dans les prochaines semaines, la métropole et la préfecture s'accordent pour trouver une vraie solution pérenne pour les jeunes. Oui, alors sur le camp ici, l'installation des tentes dans le square fonctionne vraiment sur la solidarité du voisinage. Donc les associations sont là pour soutenir les jeunes, restent toujours là jour et nuit avec eux. Mais tout ce qui est l'alimentation, l'hygiène repose vraiment sur des dons du voisinage. Et notamment la journée, des personnes vont venir proposer des activités, du foot, voilà, du sport, faire des jeux. Il y a aussi beaucoup de soutien scolaire qui s'organise sur place. C'est vraiment... toute une solidarité qui s'installe sur le camp, dans le square. Et c'est pour ça que cet arrondissement aussi, c'est appréciable pour les jeunes, parce qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de voisins qui s'arrêtent, qui posent des questions, qui vont venir se renseigner et qui vont proposer leur aide d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit matériel ou juste une présence pour discuter, pour passer un moment avec les jeunes, pour essayer de, voilà, de leur faire penser un petit peu à autre chose et de faire sortir, du quotidien dans les tentes qui est loin d'être acceptable.
Ouais, je m'appelle Kamara Sedba, je suis guinéen, donc j'ai 15 ans, donc je suis venu en France. Donc,
il y a combien de temps que tu es venu?
Ça fait un mois juste.
Okay.
Donc c'est en France, la ville de Lyon.
Et oui, du coup, pour l'instant, tu es encore en attente de la date alors?
Oui. Ouais. C'est là pour attendre la date avec la sortie de mon extrait de naissance. Donc c'est là d'abord pour ça d'abord.
Ok, c'est la Guinée qui doit t'envoyer ça?
Oui. C'est la Guinée qui doit m'envoyer ça ici, quoi.
Ok. Donc, ça peut prendre un peu de temps.
Donc, pour le moment, j'ai fini de faire le jugement supplémentif. Donc, il reste maintenant extrait de naissance. Donc, là aussi, bon, je pense, c'est presque une semaine après. Donc, ils vont finir de faire tout ça. Après, quand ils finissent ça, donc, m'armer tout bien au cercle populaire, ils peuvent m'aider à envoyer ça ici, quoi. Donc, c'est ça.
Ok. Et du coup, la vie quotidienne sur le campement, comment ça se passe? Comment vous arrivez à occuper les journées? Enfin, j'imagine qu'il y a aussi plein de trucs administratifs à faire.
Oui, comme au campement ici, on est là, on sent bien quand même avec les associations. Donc, ils nous aident à avoir le manger, avec le manger à l'école. En tout cas, ils nous soutiennent très bien et aussi on est content de leur aide.
Ouais.
Donc vraiment je suis content pour ça. Donc on reste bon, toujours derrière eux pour que notre résultat sera bien sorti.
Ok.
Donc,
et y a, du coup tu dis il y a l'école aussi sur le campement qui est...
Oui, des fois aussi il y a des gens qui viennent ici pour nous parler. Ils vont nous donner les cours de mathématiques, cours de français. Ils viennent ici, on joue encore. Des fois aussi on part aussi à l'école à ce populaire pour parler, pour étudier là-bas aussi. Donc.
Ok. Et le foot aussi?
Le foot aussi, ouais.
Et voilà. Alors, pour revenir un petit peu sur l'interview de cette dernière personne, Kamara Sedba, le micro a eu quelques problèmes pendant l'enregistrement. Donc, sur ce qu'on a loupé, on peut revenir dessus. En fait, il est arrivé au square il y a 3 semaines. Il est en attente d'une date pour rencontrer le juge des enfants et d'ici là, La Guinée doit lui envoyer son certificat de naissance, donc c'est un petit parcours administratif pas très sympa. Il ajoute aussi qu'il aimerait bien que l'État fasse un petit quelque chose pour en finir avec ces procédures assez épuisantes. Alors, autre info hors micro, en 2019, en fait, il y avait 50% des jeunes qui passaient devant le centre de mise à l'abri et d'évaluation des mineurs non accompagnés de la métropole, donc le CMAE, qui est en fait l'institution qui décide s'ils vont être mineurs ou pas. 50% étaient reconnus mineurs et donc pris en charge, logés, scolarisés. Aujourd'hui, c'est 18% d'entre eux qui sont reconnus mineurs et qui doivent donc déposer un recours pour faire appel de cette décision qui est arbitraire.
Tu veux dire, c'est les 82% qui doivent déposer un recours?
Ah oui, pardon, oui, voilà, oui, c'est exactement. Voilà, et ils sont donc plus que 18% à être reconnus mineurs. Alors, la métropole ne donne aucun argument sur la justification de cette baisse. Il semblerait que pourtant que les places de logement n'aient pas diminué. Voilà, c'est une décision qui aurait donc tout de politique.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et dans le 7e arrondissement aussi, il y a des gens qui ont toutes sortes de problèmes d'hébergement. Entre autres, à l'école Gilbert Dru, il y a une petite fille qui est en CM1, CE2, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, qui risque de se retrouver très prochainement avec sa maman et sa petite sœur de 3 ans, qui risque de se retrouver très prochainement à la rue. Puisque pour l'instant, la famille habite dans un centre, un CADA, un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Mais aujourd'hui, les gens qui sont dans les CADA sont expulsés dès la notification de refus par la commission de l'OFPRA. C'est-à-dire que les gens présentent une demande d'asile. À un moment, la demande d'asile est... Il y a une décision qui est prise dessus par l'OFPRA, et si la décision est négative, les gens sont maintenant immédiatement dégagés du CADA. Avant, il fallait attendre la décision de ce qui est plus ou moins l'appel de l'OFPRA, qui est la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Donc quand on a été refusé à l'OFPRA, on peut faire appel auprès de la CNDA. Mais maintenant, du coup, dans les foyers, dès la première décision négative, hop, les gens sont foutus dehors. Alors, les parents d'élèves de l'école Gilbert Dru se mobilisent pour essayer de trouver un hébergement pour cette famille, puisque voilà, c'est ce grand truc depuis un certain nombre d'années maintenant, de parents d'élèves qui quand même sont un peu deg quand le pote de leur enfant à l'école, et quand je dis le pote, même si c'est pas le pote, mais c'est que des enfants qui jouent dans la cour de récréation avec leurs enfants, risquent à un moment de se retrouver à dormir dans une voiture, sous un pont, dans une tente, dans un parc ou je ne sais quoi. Et dans les écoles lyonnaises, en tout cas, il y a vraiment une sorte de mouvement de fond porté entre autres par l'association Jamais sans toi, toi écrit T-O-I-T. Là, il y a aussi la FCPE qui est mouillée dans l'affaire et puis deux autres associations pour se mobiliser là-dessus. Et donc, les parents d'élèves organisent des rassemblements devant l'école tous les lundis à 17h. Il y en a déjà eu deux, mais ça va continuer jusqu'à la fin de l'année scolaire ou jusqu'à avoir une solution de logement, de relogement pour la famille. Alors, bien sûr, il faut quand même souligner que des gens qui sont déboutés du droit d'asile après l'OFPRA, et donc qui ont encore droit quand même à un recours, c'est des gens qui n'ont aucune possibilité de se loger classiquement. Ce n'est pas des gens qui vont aller dans une régie, même si jamais la mère avait des revenus, mais de toute façon, ça veut dire qu'elle n'a vraisemblablement pas le droit de travailler non plus. Mais même si elle avait des revenus, elle ne peut pas aller dans une régie et dire « Ah oui, je cherche un deux pièces, non. » C'est des gens qui n'ont aucun espoir de se loger. Et pour autant, les autorités leur disent « Bah, tu sors de là, et par contre, on ne sait pas où tu vas aller après. » Alors les autorités, bien sûr, c'est aussi tout un jeu, comme d'habitude dans ces cas-là, de différentes administrations qui se renvoient à la responsabilité, puisque la mairie va dire « c'est pas de notre responsabilité », ce qui administrativement est vrai. Ça veut pas dire qu'ils peuvent rien faire pour autant, puisqu'ils peuvent débloquer des appartements ou ils peuvent faire pression sur la préfecture, qui elle serait plus en charge de loger les gens dans ces cas-là. Mais bon, voilà, que dalle. Classiquement, les parents, dans ces cas-là, où, pendant les petits rassemblements, offrent le gâteau, le jus de fruits, le machin, on profite pour faire des goûters. Là, le parent que j'ai eu au téléphone tout à l'heure m'a dit « Non, mais là, en fait, c'est fini la convivialité. Là, on est vraiment énervé. » Et on est vraiment énervé parce qu'on ne veut plus de décision au cas par cas qui, quand même, 9 fois sur 10, s'avère être « Non, mais en fait, la préfecture s'en fout et voilà, on ne peut pas aller au-delà. » On veut un truc qui règle le problème, qui a une procédure, quelque chose qui fasse que, en fait, s'il y a des gamins qui vont à l'école, ils se retrouvent juste jamais dans la situation d'être mis à la rue d'un instant à l'autre. Et donc c'est ça, après, soit dormir dans des bagnoles, soit éventuellement, dans le meilleur des cas, d'être hébergé à tour de rôle par les différentes familles d'autres élèves de l'école, ce qui est quand même pas non plus, ce qui est confortable pour personne en réalité. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Eh ben non, ben voilà. Ben, ah si, c'est ça. C'est que ce même parent d'élève a souligné le fait que, pour le coup, réellement, l'expérience montre que la mobilisation, dans ce cas-là, peut payer, à condition qu'elle soit assez balèze. On n'est pas du tout obligé d'être parent d'élève pour se rendre à ces rassemblements. Et donc, les gens qui m'entendent, n'hésitez surtout pas à aller voir ce qui se trame dès lundi prochain à 17h devant l'école Gilbert Dru dans le 7e arrondissement, qui est l'école qui fait l'angle entre la rue Gilbert Dru et la rue, c'est laquelle déjà ? Et la rue Saint-Michel. Tout ça dans le 7e, pas très loin de la place du Pont.
Eh bien, c'est noté. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous aurez quelques 10 minutes de bande continue. Et puis
D'ici la semaine prochaine, vous aurez vachement plus.
Ah oui, mais... c'est vrai. Alors, je pensais plutôt d'ici 20h. Je ne suis pas sûre que vous aurez idée noire, mais ma foi, c'est possible. Vous verrez. Et sinon, vous êtes sur Radio Canu et les bandes continues.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur